plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, T comme Truffaut, François Truffaut, avec Anne Gillin et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Truffaut aimait comparer ses films à des boules d'ivoire qu'on peut toucher mais non casser, des surfaces lisses et patinées et donc aussi impénétrables. Beaucoup de choses trouvent leur sens réel à la revoyure, écrivait-il, et c'est un peu le danger dans tous mes films puisque la majorité des gens ne les voient qu'une fois. Il faut donc revoir Truffaut, déjà parce que 35 ans après sa disparition, prématurée à 52 ans, son appréciation critique reste empreinte de nombreux clichés. Truffaut, ce serait ce critique pamphlétaire qui n'aurait dénoncé la qualité française des années 50 que pour mieux prendre sa place. Ce cinéaste d'abord audacieux qui, victime consentante d'un déclin bourgeois, livrera finalement un cinéma des plus classiques, pour ne pas dire académiques, symbolisé par les 10 Césars remportés par le dernier Métro. Truffaut, ce serait aussi ce cinéaste charmant, gentil, tendre et doux, du côté des femmes et des enfants. Un phénomène unique aussi, l'ensemble de ses films a été distribué commercialement aux États-Unis, mais il n'y serait apprécié qu'en tant qu'emblème d'une French touch douce amère, d'une psychologie sentimentale qui doivent paraître assez exotiques outre-Atlantique pour correspondre à l'idée qu'on s'y fait de la France, comme on peut le lire encore aujourd'hui dans certains dictionnaires de cinéma. Or, s'il faut revoir Truffaut, cette œuvre et cette personne ancrée dans la mémoire collective, c'est bien parce que, destinés à séduire, ces films dissimulent leurs enjeux, la revoyure les révèle, écrit notre invitée dans Plan Large, Anne Gillin, qui, après avoir enseigné de longues années aux États-Unis et écrit plusieurs livres sur Truffaut, revient à l'ouvrage avec Tout Truffaut, une étude systématique de ses 21 longs métrages et deux courts. Elle nous dévoilera donc quelques-uns des enjeux en question et des stratégies formelles qui ont permis à celui qui a toujours voulu tenir le public assis, bouche ouverte, de transformer un matériel intime et personnel en récits universels. En fin d'émission, la tout aussi truffaldienne Charlotte Garçon nous parlera d'un grand film malade, comme l'appelait Truffaut, qu'il aimait beaucoup, Les Amants du Capricorne d'Alfred Hitchcock, ressorti en salle et bien bientôt en Blu-ray, mais pour l'heure, retour à la scène primitive.
Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère.
Elle m'avait invitée, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup, et puis elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je ne les ai plus trouvés. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire. Puis je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère?
Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Puis, ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle pouvait plus me garder. Puis alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Et puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Alors, aussi, genre quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu quand elle était... Elle m'avait eu fille-mère, quoi. Et puis, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère.
La gouaille merveilleuse, le naturel de Jean-Pierre Léaud dans Les 400 coups, en Antoine Doinel, le premier film de François Truffaut en 1959. Alors le voilà, Le secret des origines, la scène primitive racontée par Antoine Doinel, et scène très proche de la biographie de François Truffaut. Ça fait longtemps, Anne-Gilin, que vous écrivez sur François Truffaut. Vous aviez écrit en 1991 un livre qui s'appelait François Truffaut, Le secret perdu, oui. Premier ouvrage sur ces films. Vous soupçonniez, à partir de l'analyse des films, des éléments dont on s'est rendu compte par la suite, à la fois grâce à la biographie d'Antoine Debecq et Serge Toubiana, mais c'est aussi le livre de Carole Lebert.
Absolument, un livre indispensable.
Voilà, Truffaut,
tous les deux d'ailleurs,
Truffaut
la biographie.
Au travail. Tout ça a jeté un éclairage nouveau, ce qui vous permet de revenir à l'ouvrage, je l'ai dit
exactement.
Tout à l'heure, et de parler de tout Truffaut dans ce film, parce que, je vous cite, vous écrivez que les films de Truffaut représentent pour lui des carnets intimes, des carnets privés, qui sont écrits dans un langage codé, dont on se rend compte ou pas. Alors quand on regarde Les 400 coups, c'est peut-être le film où on s'en rend le plus compte, où on a plus,
le
plus directement.
Dès le début, on a parlé de films autobiographiques, ce qu'il a immédiatement nié, puisque à cause de ses parents, qui évidemment ont été très blessés par ce film. Ce film est évidemment le plus célèbre de Truffaut, le plus universellement admiré, un des rares qui n'ait jamais été critiqué parce qu'il a été beaucoup attaqué sur ses autres films. Et je crois que la raison, c'est que c'est un film unique sur une expérience unique. C'est-à-dire que Truffaut décrit un enfant malheureux et il le décrit de l'intérieur. Il a été cet enfant. Parce qu'il y a des grands réalisateurs qui ont parlé de l'enfance malheureuse, mais qui ne l'avaient pas vécu. Ils se sont penchés sur les enfants. Lui, il l'a vécu, il sait exactement ce qu'il a ressenti et il veut comprendre. Et je crois que presque tous les films de Truffaut, derrière le film, il y a le désir de comprendre quelque chose qui, de profond en lui, il dit on ne choisit pas ces films, c'est eux qui s'imposent. Et bon, certainement, Les 400 coups, ça s'imposait. Mais il y a une urgence dans le film qui vient de ce désir de se pencher sur cet enfant. Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Pourquoi ça a si mal tourné pour lui? Et toute la progression du film, c'est en effet une chute dans la solitude et le silence. Et ce qui est merveilleux dans cette scène, justement, qui arrive en fin de film, c'est que brusquement, cet enfant qui a été de plus en plus isolé de sa famille, de l'école, finalement de son ami René, donc qui n'a plus aucun interlocuteur, sauf les policiers, qui ne lui parlent pas, qui le tutoient, qui n'attendent pas de réponse. Brusquement, il y a cet jaillissement de parole avec la scène de la psychologue. Alors c'est d'autant plus frappant dans le film que cette scène est différente au point de vue formel du reste du film. C'est une scène improvisée, le reste du film, le dialogue était écrit avec Marcel Moussy. Et là, Truffaut a décidé de travailler uniquement avec Léo et Henri Dequay, le directeur de photographie. Il n'y avait personne d'autre sur le plateau pour que Léo se sente entièrement à l'aise, libre. Et il lui a donné quelques lignes conductrices, mais il lui a demandé d'utiliser son propre langage et d'éviter de contredire, évidemment, la ligne centrale du récit. Alors, la seule chose qu'a fait Léo, c'est qu'il a introduit une grand-mère qui n'était pas là, qu'on n'a jamais vue, mais enfin, d'une façon tellement naturelle. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que à ce moment-là du film, le spectateur est en droit de se poser des questions sur cet enfant. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il pense? Et alors, non seulement il a la parole, mais en plus, c'est une parole absolument spontanée, heureuse, détendue. C'est un enfant qui est intact. C'est un enfant qui n'a pas été complètement détruit par ce qu'il vient de vivre. Et donc, c'est un soulagement presque pour le spectateur. Et le film serait très différent si on n'avait pas cette scène. Parce que ce serait un film beaucoup plus noir, évidemment. Hein, parce que le dernier plan, qui est inoubliable et extraordinaire, dont James Gray dit que c'est la plus belle fin pour un film dans l'histoire du cinéma, elle est quand même énigmatique. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il ressent, il est tout seul. Alors que là, il parle avec beaucoup de facilité à cette femme qui est absente. Alors normalement, elle devait être là, c'était Annette Vanement qui devait jouer le rôle de la psychologue. Et pour une raison, elle n'était pas à Paris. En tous les cas, ils ont décidé de travailler avec Léo et ensuite de faire les contre-champs. Et quand Henri Dequay a vu le résultat, il a dit que ce serait de la folie de faire des contre-champs. on le prend comme ça.
Alors, le dernier plan est énigmatique, mais on l'a tous dans la mémoire, ce regard du petit Antoine Doinel, Jean-Pierre Léo, face à nous, qui vraiment nous regarde, regard caméra, on est à l'époque où Bergman en fait, enfin voilà, c'est un moment clé de l'histoire du cinéma, mais juste avant ce plan, il y a une course, et le mouvement d'Antoine Doinel, dans le film, et Léo Scarrax s'en souviendra quand il lui filmera lui-même des gens qui courent, c'est cette course, ce travelling latéral sur Antoine Doinel. C'est le... avec la figure circulaire qui est celle plutôt de la femme, hein, si j'ai bien compris ce que vous dites, Angina.
On dit d'autres personnes aussi. Oui.
Antoine Doinel, c'est le travelling.
Oui, la course vers la mer, de gauche à droite, c'est-à-dire un mouvement qui flatte le regard, qui est celui de la lecture et qui est long. Avec ce retournement final vers la caméra, le regard vers la caméra et cette expression très... très insondable. Alors que la scène avec la psychologue, il y a des sourires, il y a des mouvements, il y a de l'animation. Et alors évidemment, on peut aussi dire beaucoup de choses sur le fait que le corps de la psychologue n'est pas là, puisque les femmes, la femme du film, parce qu'il n'y en a vraiment pratiquement qu'une, c'est la mère, pose tellement de problèmes à son fils. Et là, il est un peu libéré de la présence du corps féminin qui, à la maison, est une force qui l'écrase complètement. Donc, c'est toute cette scène qui est hors code par rapport au film, est une scène de bonheur. Voilà.
Une course chez Truffaut, en voici une autre.
Qu'est-ce que vous pensez de notre ami Thomas? Pouvons-nous sortir avec lui?
Pas mal du tout. Une ombre de moustache, peut-être.
Et maintenant, l'épreuve de la rue.
Pardon, monsieur. Voudriez-vous me donner du feu, s'il vous plaît? Merci, monsieur.
Catherine était contente du succès de sa ruse. Jim et Jules étaient émus comme par un symbole qu'ils ne comprenaient pas.
Ou bien je rêve, ou alors il pleut.
C'est peut-être les deux. Alors, s'il pleut, partons au bord de la mer? On part demain. Oh, le terrain me paraît excellent. Je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle.
Attention, prêt. Un, deux, oh.
Thomas, vous avez triché.
Mais j'ai gagné.
Thomas gagne toujours. Il parle trois langues. Nage comme un poisson.
Est-ce que Thomas sait faire les pieds au mur?
Vous lui apprendrez.
Jules et Jim, la course dans la passerelle grillagée, hein, qui évoque aussi les cages dans lesquelles sont enfermés Antoine Doinel dans le commissariat, dans les 400 coups. C'est toujours intéressant d'entendre les bandes son parce qu'on avait passé récemment un extrait dans Quatrième Vitesse de Robert Aldrich, le début, on avait ce halètement de femme qui évoquait quand même assez irrésistiblement un acte sexuel. On a la même chose ici avec le halètement de Jeanne Moreau et ce cri d'extase elle gagne. La course, et on vient d'entendre la voix de Michel Subor. Michel Subor qui dit le texte de Rocher et qui vient de dire « Jim et Jules étaient émus par un symbole qu'ils ne comprenaient pas ». Et le spectateur est dans la même situation. Il y a toujours chez Truffaut, derrière l'histoire apparente qui est racontée, des images comme cette séquence qu'on vient d'entendre, qui sont des symboles, qui sont des métaphores, qu'on ne comprend pas forcément, mais qu'on ressent. Angina.
Et quand il fait un film, c'est pour comprendre quelque chose. Et évidemment, la chose à comprendre dans Jules et Jim, c'est Catherine. C'est une énigme totale, une masse de paradoxes, comme le prouve cette scène. Et elle est sauvée par Jeanne Moreau. Il n'y aurait pas Jeanne Moreau, ce serait un personnage assez insupportable. Il faut l'intelligence, le charisme incroyable, la beauté, la présence physique, la façon de bouger, les expressions. Et Jeanne Moreau. Sans Jeanne Moreau, Catherine, c'est quand même un personnage qui passe son temps à torturer ces deux hommes. Et bon, qu'il fait avec un grand art, un charme fou. Mais c'est un personnage assez mortifère. tellement mortifère d'ailleurs qu'elle finira par en tuer un des deux. Et elle-même. Donc, dans cette scène, elle s'habille en homme pour proclamer sa jouissance de femme. Donc, c'est typique de son comportement dans presque tout le film. Et en même temps, ils sont complètement subjugués. Il y a cette admiration. Alors, c'est le troisième film de Truffaut. Et le second, c'est Tiré sur le pianiste, bien sûr. Et déjà dans le pianiste, la persona masculine est divisée en deux. Il y a Charlie et il y a Édouard, le grand pianiste, le pianiste bastringue. Et on retrouve cette division. Jules et Jim, c'est quand même deux moitiés d'une même persona masculine. Le côté passif qui va survivre, qui renonce au désir, à l'amour, à la passion. Et l'homme actif, l'homme qui travaille, qui voyage dans le monde entier, qui est le journaliste, l'esprit curieux. Et qui va suivre son désir et qui va y trouver la mort. Donc, on a deux options du masculin qui, ni l'une ni l'autre, ne sont entièrement satisfaisantes. Et on a ce personnage solaire, ce personnage féminin solaire, mais terrifiant. C'est un personnage terrifiant. D'ailleurs, il y a des très grands personnages de femmes chez Truffaut et aucun n'est aussi, redoutable. Enfin, il y a la mariée, évidemment, où Jeanne Marlborough va retrouver un rôle de criminel. Mais c'est un des grands personnages féminins de Truffaut, évidemment. Par les énigmes. Les énigmes, elle est insaisissable.
Mais il y a un quatrième personnage, Charlotte Garçon, c'est la littérature, c'est le texte de Rocher, c'est la voix qu'on vient d'entendre de Michel Subor. Alors je parlais tout à l'heure des critiques de François Truffaut contre la qualité française, et en particulier contre les adaptations littéraires que faisaient Orange et Bost à l'époque. Or, Truffaut va beaucoup travailler la matière littéraire, mais comme on en avait parlé avec André Bazin et le cinéma impur, que ce soit pour le théâtre ou la littérature, il affiche la source littéraire et il en fait une matière.
Oui, c'est le principe de son article de 1954, Une certaine tendance du cinéma français, c'est-à-dire pourquoi essayer de trouver une forme pseudo-cinématographique en transformant le texte littéraire. Donc ce qu'il propose, c'est au contraire de transplanter tout simplement du littéraire à l'intérieur du cinéma, et peu importe si ça a un effet non vraisemblant, hein, pour prendre un terme hitchcockien. Et effectivement, je trouve que c'est passionnant de faire venir le texte comme texte, un peu à la façon dont il fait venir la statue, l'effigie, la femme. Vous disiez, c'est ce personnage de Catherine dans Jules et Jim, d'abord c'est une statue pour eux, hein, puisque ils sont allés
Mais
en Grèce.
Souvent, les femmes aimées se présentent d'abord sous forme de photos. Il y a d'abord une image figée, ou là encore plus puisque c'est une statue, avant de découvrir l'être vivant, et ça marque les relations, évidemment. Mais déjà le premier film de Truffaut, Les Mistons, il y a un texte littéraire, hein, par derrière, mais il utilise souvent le texte aussi comme contrepoint de l'image. Souvent le texte contredit ce qu'on voit, ou bien il y a une dimension ironique, comme je mentionne le fait qu'à un moment dans Jules et Jim, on parle de son sourire tranquille. Et c'est la dernière chose, évidemment, que Jeanne Moreau présente à l'image. C'est quelqu'un de tranquille. Donc, il y a cette tension. Voilà. Il aime la tension entre l'image et la parole. Et même quand il n'y a pas de texte littéraire, d'ailleurs, il dit souvent la bande son doit contredire la bande image, créer un dialogue. Voilà. Et une interrogation pour le spectateur. C'est intriguant, cette tension.
Je voudrais du lait. Lait.
Voilà, Madame Guérin, voilà du lait. Non, Victor, non. Faut le demander. Non. Madame Guérin, je voudrais du lait.
Bien.
Merci, Madame Guérin.
Lait. 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 Lait.
Merci, lui, quand même. C'était la première fois qu'il sortait de la bouche de Victor un son articulé. Madame Guérin ne l'entendit point sans la plus vive satisfaction. Pour moi, je fis une réflexion qui diminua de beaucoup à mes yeux l'avantage de ce premier succès. Ce n'était qu'au moment où, désespérant de réussir, Madame Guérin venait de verser le lait dans la tasse que le mot lui avait échappé avec une petite grimace plaintive. Je sentis qu'il ne fallait surtout pas en rester là et j'attendis impatiemment que Victor me réclame à nouveau un bol de lait. Victor, demande-moi ton lait. Lait ! Lait ! Non. Attends. Les. Les. Tiens, regarde ce que je vais faire. Non, non, Victor, non. Non.
Vous écoutez France Culture, plan large sur François Truffaut avec Angelin et Charlotte Garçon. C'est l'enfant sauvage, évidemment difficile, très difficile, apprentissage du langage. Truffaut disait il faut avoir la haine de l'information directe. Et c'est tout le sujet du film, en quelque sorte, puisque c'est une réflexion sur qu'est-ce que le langage quand il n'est pas articulé, quand il n'est pas verbal, mais qu'il passe par le corps, et comment avoir une appréhension du monde sans langage. C'est tout l'enjeu de cet enfant sauvage, Angelin.
Le film est d'ailleurs dans l'esprit du temps. Il a été fait en 71, 70. Et la grande époque, le début de la sémiologie. Hein, donc on dit toujours que Truffaut était en décalage par rapport à son temps, ce qui est vrai, mais il était très à l'écoute, très sensible à ce qui se passait. Et il pose le problème que tous les grands intellectuels se posaient à l'époque. Il le pose en termes populaires, dans un film qui est d'accès universel. Alors là, c'est aussi un second immense succès qui est passé dans toutes les cultures, parce qu'en effet, à nouveau, il pose une situation unique. Comment un enfant qui n'a jamais été dans la civilisation peut découvrir la valeur symbolique du langage et comment peut-on lui faire comprendre la différence entre le signifié et le signifiant? Bon, la réponse est qu'on peut pas. Et alors, la grande nouveauté dans ce film, c'est évidemment que c'est Truffaut qui joue.
Truffaut acteur pour la première fois. Avec ce jeu si particulier, cette diction qu'on a entendue, mais cette manière aussi très, très unique d'occuper l'espace.
Et qu'on lui a reproché, d'ailleurs, on lui a. Mais il était très embarrassé de prendre ce rôle et il l'a annoncé à ses collaborateurs au dernier moment. Mais il a dit qu'il ne supportait pas l'idée d'avoir un intermédiaire entre lui et l'enfant. Et je crois que l'investissement affectif était si profond pour les deux personnages, parce qu'il est clair que dans le film, Truffaut est les deux personnages. Il est autant Victor qu'il est Itard. Il a dit plus tard qu'il s'était rendu compte qu'il parlait de lui et de Bazin dans ce film.
Ouais, il faut rappeler qu'enfant, enfin adolescent à problème, comme dans Les 400 coups, Truffaut a été recueilli par André Bazin dans une maison à la campagne à côté absolument, de Paris qui absolument. Pourrait être celle du film.
Absolument. Et L'enfant sauvage, c'est un film qui vous étourdit par sa binarité. Il y a des deux partout. C'est culture, nature, et tout découle de là. Itard, Victor, l'arbre, l'escalier, la première scène qu'on a entendue, là, où le pauvre Victor miaule, ce petit miaulement plaintif pour essayer de satisfaire son professeur, est cadré dans une fenêtre. Et alors, les fenêtres dans L'enfant sauvage, il y en a partout. Et comme je raconte dans le livre, j'avais fait une interview avec Truffaut c'était qu'en 79. Bon, à l'époque, je comprenais pas très bien les films, mais je lui avais dit, mais pourquoi y a-t-il tant de fenêtres dans L'enfant sauvage? Il y en a partout dans. Et il m'a dit, j'en avais besoin. C'est instinctif. Parce que Truffaut ne théorisait jamais ce qu'il faisait, mais il savait exactement ce qu'il voulait faire. Et évidemment, la fenêtre, c'est le passage. C'est à la fois la peur que l'enfant disparaisse, et c'est le passage entre les deux mondes.
Charlotte Garçon.
Oui, l'un des exercices, alors vous dites qu'il ne théorisait pas, mais effectivement, l'un des exercices, par exemple, que fait faire le docteur Itard à Victor, c'est il pointe des mots, et puis l'enfant doit aller chercher. Et l'un des exercices, c'est il pointe livre, ciseaux, cadre. Et finalement, livre, ciseaux, cadre, c'est le cinéma, c'est-à-dire texte, montage et cadrage.
Ah oui, absolument.
Donc, à la fois, il ne théorise pas, et à la fois, il me semble que c'est ce qui est très étonnant avec L'enfant sauvage, c'est qu'il est un tel succès populaire, alors que ce soit presque un squelette de récit. On a l'impression qu'il a enlevé tout le gras et il reste quelque chose de très romantique. Il reste en fait une espèce de station émotionnelle où on pleure presque à chaque échange entre lui et l'enfant.
Je crois que c'est un film plein de suspens, curieusement, parce qu'on attend toujours quelque chose. C'est vrai que ces exercices, ça pourrait être incroyablement ennuyeux, et c'est pas le cas. Et je crois que ce qui est magique dans le film, et c'est vraiment magique parce que c'était tellement difficile à faire, c'est que l'équilibre entre les deux mondes, parce que c'est deux univers, hein, l'univers prélinguistique, l'univers adulte et s'il visait, l'équilibre est maintenu jusqu'à la dernière image. Il ne prend jamais parti. Une des scènes que je trouve les plus belles du film, qui est très brève, c'est on vient de dire qu'il n'y avait aucun espoir, qu'on n'allait plus donner sa pension à Madame Guérin, qu'on pensait que c'était un crétin. Pinel, le superviseur, ne veut plus poursuivre ce projet éducatif. Et tout de suite après, donc c'est le désespoir, tout de suite après, il y a une toute petite séquence où on voit la nuit Victor tout seul devant une bougie, avec le solo de Piccolo, de Vivaldi, qui est la musique d'Itard, parce qu'il y a aussi deux musiques, et l'enfant joue avec une bougie. Et les bougies, c'est le monde d'Itard, le monde de la connaissance, le monde des lumières. Donc ça contredit sans arrêt, chaque scène se contredit, voilà. Et c'est ça la tension et le côté passionnant du film.
Ah Joël, tu as vu Alphonse ?
Tu sais, il veut pas sortir. Il est enfermé dans sa chambre, il veut rien entendre. Non, même pas.
De toute façon, Séverine est...
Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel.
Écoute, Alphonse, viens. Tu vas rentrer dans ta chambre, hein. Tu vas relire le scénario, tu vas travailler un petit peu et tu vas essayer de dormir, hein. Demain, c'est le travail, et le travail est plus important. Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi.
Les films avancent comme des trains dans la nuit. Ouais, s'il y a une réplique, s'il y a une réplique célèbre dans le cinéma de Truffaut, c'est bien celle-là. Ça sort de la Nuit américaine, un film assez décrié encore aujourd'hui parce qu'on la trouve trop consensuelle, parce qu'elle a eu l'Oscar du meilleur film étranger, donc c'est louche, parce que c'est le film de toutes les ruptures. Jean-François Stévenin avait raconté dans cette émission, lui qui était premier assistant sur le film, qui joue d'ailleurs le premier assistant également, qui dit que pour lui c'était le film de trop de Truffaut et c'est à partir de là qu'il a commencé à faire ses propres films. C'est le film de la rupture avec Godard qui lui proche, le portrait du cinéaste qui est le seul qui ne baisse pas, je cite Godard, dans le film.
Ce qui n'est pas vrai, il baisse aussi.
Voilà, mais on ne le montre pas. Il y en a un qui a tout compris, il me semble, à ce film, et c'est Pasolini, et vous le citez dans votre livre, et je cite votre citation, « Le vrai contenu du film est son rythme, dit-il. Le rythme n'est pas déterminé par la psychologie du personnage, au contraire, c'est le rythme qui détermine la psychologie des personnages et l'histoire. L'arbitraire de centrer la créativité autour du rythme mathématique et abstrait de situations psychologiques et existentielles, confère à ces situations un degré extraordinaire de vérité et d'élégance. » Et là, tout d'un coup, on n'est plus du tout dans film anecdotique sur les coulisses du cinéma.
Et Dieu sait que j'ai passé du temps à étudier les films de Truffaut, et je peux vous dire que La Nuit américaine m'a donné du fil à retordre, que c'est un film que je ne maîtrise toujours pas, d'une complication. Et il y a un sous-texte qu'on ne voit pas du tout, parce que c'était l'art de Truffaut, c'est de cacher tout le boulot. Mais une fois qu'on met le nez dedans, c'est un film qui peut vous rendre fou. Il y a tellement de rimes, de correspondances. Et l'annonce, alors il faut d'abord dire que c'est un grand tournant. C'est vraiment un grand tournant dans l'œuvre. C'est le début de la seconde partie de l'œuvre qui pour moi est magistrale. Tous les grands films vont s'accumuler les uns après les autres maintenant. Et c'est aussi un changement thématique. On passe de l'amour à la créativité.
Avec qui va devenir grande scène, le grand thème. Le cinéma règne, voilà, et la musique baroque de derrière.
Ouais. Et à partir de là, il y aura une œuvre créative dans tous les films de Truffaut, sauf L'Argent de poche, bon, ça c'est évidemment spécial, mais vous aurez le roman de l'homme qui aimait les femmes, la chapelle de la chambre verte, même dans La femme d'à côté, qui est un retour de la passion dans la thématique des films de Truffaut, elle écrit un livre, il y a aussi l'histoire d'un livre. Donc la créativité devient le grand sujet de Truffaut et c'est la célébration du cinéma. Mais alors dans ce film, il y a des figures assez effrayantes. La statue qu'on va retrouver dans La chambre verte, les perruques qu'on va retrouver aussi dans Vivement dimanche, un côté, et il y a la mort. Il y a la mort dans ce film. D'ailleurs, il avait dit, il faut qu'il y ait la mort dans ce film. Donc, ça faisait partie de son projet. Parce que, quel est l'ennemi de la créativité? C'est la mort. Et en effet, à partir de La nuit américaine, on a l'impression que Truffaut est pressé. Il sent qu'il va pas pouvoir, il voulait faire 30 films, il n'a pas pu les faire. Et il y a cette espèce de feu. Mais en même temps, cette angoisse. Et qui est déjà présente, mais alors entièrement cachée. Moi, j'ai choisi dans mon livre d'étudier les rêves. Les trois rêves du film, où on retrouve le petit garçon. Et à la fin du troisième rêve, il faut vraiment regarder le film pour le voir, il y a un panneau lumineux, il se sauve, il a volé les photos de Citizen Kane. Donc c'est la délinquance, le petit voleur, le petit cinéphile, tout ça. Bon, ça renvoie évidemment à Truffaut. À la fin, il y a un grand signe en néon qui dit « surdité ». Et Et d'ailleurs, il a un appareil, Ferrand a un appareil. Surdité, c'est cette difficulté à communiquer, cet enfermement qu'on va retrouver dans le dernier métro, dans toute sa splendeur, hein, le créateur dans sa cave, qui peut pas communiquer, qui a besoin lui aussi d'un système acoustique pour rentrer en contact avec le monde extérieur. Donc il y a un côté, il y a une angoisse qu'on voit pas du tout, mais qui porte le film et qui parle au spectateur sans qu'il s'en aperçoive.
Mes morts possèdent un endroit maintenant qui est irrévocablement à eux. Mais vous voyez, cette ancienne chapelle ne sera pas un lieu de mort, ni un lieu de repos, mais un lieu de vie. Même lorsque nous ne serons là, ni vous ni moi, ces flammes continueront à briller, à respirer, au rythme du cœur humain. Aucune d'elles ne devrait s'éteindre.
Mais tous ces portraits, toutes ces personnes, vous les avez connues ?
Oui, ce sont mes amis disparus. Vous êtes jeune, mais vous verrez qu'à partir d'un certain moment, on en arrive à connaître beaucoup plus de morts que de vivants.
Cet homme, par exemple, qui était-il ?
Il s'appelait Simon Jardine. Il venait d'Irlande. Pendant les 30 ans qu'il a passé dans notre région, les gens de police et de justice n'ont pas eu beaucoup de travail. Sa réputation de probité et de logique était telle que tous les gens qui avaient des désaccords préféraient se remettre à lui pour arbitrer leurs conflits.
Et ce couple ?
Ils se sont mariés en 1911. Pendant 3 ans, ils ne se sont jamais séparés, pas une journée, pas une heure. Et puis lorsqu'il a été mobilisé, elle a voulu le jeter par la fenêtre, les voisins l'ont retenu. Alors lui a déserté pour la rejoindre parce qu'il ne pouvait pas plus passer d'elle qu'elle ne pouvait se passer de lui. Ils ont réussi à gagner la Hollande, où ils sont morts il y a peu de temps, quelques années, à quelques jours d'intervalle, comme des Siamois. Regardez cet homme avec son si beau visage. Toute sa vie, il a souffert de timidité, une timidité incroyable. J'aimerais vous parler de lui, mais c'est difficile. Il faudrait vous communiquer le timbre de sa voix, qui était extraordinaire. Celui-ci est un Américain. Il aimait tellement l'Europe qu'il a fini par adopter la nationalité anglaise. Je l'ai très peu connu, malheureusement. Mais c'est quand même à travers lui que j'ai appris l'importance du respect pour les morts.
L'importance du respect pour les morts, c'est dans La Chambre verte de François Truffaut. Alors la mort faisait une apparition discrète, vous l'avez dit, dans La Nuit américaine. Ici, les morts sont partout et pourtant, on l'entend ici, le rapport aux morts est très doux.
Et la créativité.
La créativité, la création de cette chapelle qui est une image du cinéma.
Absolument.
Puisqu'il s'agit d'animer des photos avec des flammes.
Absolument, absolument. C'est un film éblouissant, La Chambre verte, d'une beauté formelle. Almendros, alors j'ai oublié de dire, il commence à travailler avec Almendros au moment de L'Enfant Sauvage. Et tout le travail d'Almendros avec Truffaut est éblouissant, là. Les harmonies de couleurs, les mouvements, les éclairages. Alors, on a appelé, les techniciens ont appelé La Chambre verte l'homme qui aimait les flammes. Parce que, évidemment, c'était un grand souci. La chapelle, c'est splendide, cette scène de la chapelle. C'est vraiment Truffaut qui représente son œuvre, le créateur au milieu de sa création. On entendait l'énumération de ses pères. Il y a Henry James, évidemment, il y a Proust, il y a Audi Berthier, il y a Oscar Werner, il y a aussi des inconnus. Moi, j'ai dit que La Chambre verte, c'est un requiem. Parce qu'on dit toujours, oh, un film sur la mort, c'est morbide. Bon, les requiem, c'est pas morbide. On écoute le requiem de Mozart avec un immense plaisir. C'est d'une grande beauté, d'une grande majesté, comme La Chambre verte. Et La Chambre verte aussi, c'est la mort, mais c'est aussi un hymne à la vie à travers le thème de la créativité. Daven, il est pas passif, il arrête pas de travailler, de lutter pour faire quelque chose avec cette angoisse de la mort, cette douleur de la mort qu'il habite. C'est un film aussi très proche de Vertigo. Une chose qui m'a beaucoup frappée en voyant Vertigo récemment, c'est que la grande scène de Vertigo dans la chambre, quand elle sort habillée complètement comme Madeleine, elle est nimbée de lumière verte. Et c'est une question que j'aurais bien voulu poser à Truffaut, ça. Est-ce qu'il y a pensé?
Malheureusement, ni Truffaut ni Hitchcock ne sont là pour vous répondre, mais ça ne vous aura pas échappé, cher Haute Garçon, dans les photos de la chapelle qui s'anime, il y a un chef d'orchestre qu'on voit animé par les flammes, et c'est Maurice Jaubert, qui lui aussi était mort à la guerre, alors pas la guerre de 14, comme les
40,
morts, comme les morts de la Chambre verte, mais la guerre de 40, et la musique de Maurice Jaubert, il va être utilisé dans ce film, mais aussi sur le plateau. Elle était diffusée pendant le tournage pour régler les mouvements de caméra, des acteurs, et Truffaut a dit que La Chambre verte, pour lui, c'était une comédie musicale, mais une comédie musicale qui ne chante pas et qui ne danse pas.
Ouais. Oui, on voit bien qu'en fait, à chaque fois, toucher le fond, je dirais, existant de l'angoisse existentielle, finalement, il n'y a que lui, parmi les cinéastes français, qui soit allé aussi loin dans cette exposition d'un rapport à la mort et de l'angoisse existentielle. Et ça va à chaque fois avec l'invention d'une forme. Et donc là, par exemple, ce paradoxe formel qui serait une comédie musicale qui ne chante pas. Et il me semble aussi que, enfin, il va radicaliser en tant qu'acteur justement ce côté très neutre qui peut désarçonner dans son jeu et qui est finalement très bressonien. On n'a pas parlé de Robert Bresson, mais quand François Truffaut joue, on entend aussi ce ton bressonien.
Il refuse la sympathie. Tout dans son corps, il y a Axel Roper qui a très bien parlé de lui dans La Chambre verte, qui dit il refuse la sympathie. Il parle de choses qui sont essentielles. Alors, autre chose que je voulais dire à propos de Vertigo, le fait que Vertigo a pris la place de Citizen Kane en 2012 comme le film de la liste Sight and Sound. Quand elle a sorti, on a dit que c'était un film morbide, un film de pervers, un film bizarre. Toutes les choses qu'on a dites à propos de La Chambre verte. Et moi, je suis certaine que La Chambre verte, on va se rendre compte que c'est un des grands, grands films de Truffaut. D'une beauté, le travail sur la forme, les objets, les couleurs, enfin c'est impeccable de maîtrise.
Non, éteignez. De quoi avez-vous peur? La police vous a relâché?
Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il faut que j'aille à Nice. Il faut que je comprenne ce que ma femme a fait là-bas. Il faut que je sache qui elle a rencontré. Il faut que je reconstitue tout. Il faut que je sache si il n'y a pas un autre homme que ma soulier. Parce que il y a une chose que vous savez pas, Barbara. Ma soulier était l'amant de Marie-Christine.
Si, je le savais, mais ce n'est pas mes affaires. Je n'ai pas à m'occuper de la vie des gens. Mais où est passé le revolver qui était là?
Je l'ai dans ma poche.
Ah non, alors. Vous prenez la fuite, c'est déjà idiot. Mais si vous avez l'intention d'aller à Nice pour tuer votre femme, moi, je ne vous laisserai sûrement pas faire ça.
Ah, mais vous n'y êtes pas du tout. Je n'ai pas du tout l'intention d'aller tuer Marie-Christine. Elle est déjà morte.
Quoi?
Oui. Elle est rentrée de Nice, elle a été assassinée ce soir chez nous. Mais c'est pas moi qui l'ai tuée. Vous me croyez?
Ben, c'est difficile à croire, mais...
Elle est rentrée ce soir à 7h. Nous nous sommes disputés violemment, et puis l'autre imbécile, là, l'adjoint de Santelli, est venu me chercher pour m'interroger à nouveau. J'étais dans un état épouvantable. Heureusement, ils ont laissé venir mon avocat. Après l'interrogatoire, Clément m'a raccompagné chez moi. Quand il m'a demandé quel jour rentrait Marie-Christine, j'ai été décontenancé, j'ai menti. Je lui ai dit qu'elle rentrerait après-demain. Alors à cause de cette connerie de mensonge, je ne pouvais pas l'appeler à la rescousse.
Vous écoutez France Culture, plan large sur François Truffaut avec Anne Gillin et Charlotte Garçon. C'est vivement dimanche, évidemment, Jean-Louis Trintignant, Fanny Ardant, dans la cave. Alors si Truffaut s'était arrêté, était mort, il est mort déjà très jeune, mais s'il était mort après La Chambre verte, on aurait dit voilà, film crépusculaire, film tombeau. Là, il finit avec une comédie tout à fait virvoltante,
pétillante,
avec des rebondissements incessants, mais avec quand même un côté rétrospectif. Et là, ça, vous le montrez très bien dans votre livre, Anne Gillin. Vous analysez toutes les récurrences, toutes les autocitations qui ne sont pas des autocitations. Vous dites que ce sont des plans mémoriels. C'est-à-dire que ce sont des plans qui jouent sur la mémoire du spectateur de façon consciente ou pas, parce que parfois ça passe,
ça passe très vite.
Qui l'installe dans un univers là, résolument truffaldien.
Oui, on a beaucoup appelé ça les autocitations, en se moquant un peu de lui. Mais ça joue un rôle essentiel dans l'effet qu'il veut créer sur le spectateur. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point Truffaut était sensible à... Il manipulait le système perceptif de son spectateur. Et avec une maîtrise, justement, c'est ça l'évolution de son œuvre, c'est que les derniers films, on voit qu'il sait exactement ce qu'il fait. Et il travaillait sur, par exemple, les corps dans l'espace. Bien sûr que ça parle au spectateur. Il paraît que pour Vivement Dimanche, il disait aux spectateurs, aux acteurs, il est comme une chorégraphie. Il leur disait qu'il devait marcher dans tel sens, faire ses mouvements. Chaque détail du plan, et pas seulement du récit, mais du plan, était contrôlé et surveillé très attentivement par Truffaut. Et spécialement Vivement Dimanche, parce que c'est un film sur rien. C'est vraiment un film à la Lubitsch, faire quelque chose de rien. C'est la formule de Lubitsch. Et là, donc, c'est que de la manipulation des perceptions avec des acteurs extraordinaires, des dialogues qui, vraiment, des réparties.
Mais des dialogues pour le plaisir du dialogue.
C'est-à-dire
qu'on n'est pas dans du dialogue informatif.
Absolument.
On vient de l'entendre ici. On n'est que dans un jeu sur la langue.
L'histoire est accouchée dehors. Et alors, il a mis en plus des scènes complètement loufoques, 5 ou 6 scènes loufoques. L'Albanais qui vient demander l'acide politique. érotiques, la secrétaire qui tape avec un doigt. Alors il a expliqué qu'il mettait ces scènes loufoques pour faire passer l'invraisemblance de l'intrigue. Parce que du coup, à côté de ça, on allait tellement loin dans la folie que l'intrigue paraît, ok, on avale des trucs qui sont très gros. C'est invraisemblable hein, dans...
C'est un vrai semblable et ça va très très vite. À toute vitesse. Vous avez dû y être très sensible parce que c'est un film donc très cinéphile sur sa propre cinématographie, oui. Mais aussi des citations d'Hitchcock, de Renoir, oui, etc. Mais il y a un ton très hoxien. Ça va très vite et il va dire d'ailleurs à ses acteurs, parlez comme si vous étiez en train de doubler un film américain. Ouais. Vous n'aviez pas le temps de dire toutes les répliques. Ouais. Il dira à Nestor Almendros, faut tourner très vite parce qu'on est dans une économie de série B, donc faut pas perdre de temps. Et ça se sent cette vitesse.
Ah oui. Oui, et avec l'idée aussi sans doute que Fanny Ardant soit la Catherine Hepburn française, c'est assez réussi de ce point de vue-là. Il y a une sorte de tension entre elle qui est la femme d'action, hein, c'est comme chez Hawks, disons, c'est la femme qui agit, tandis que lui est un peu mis au tombeau, puisque Trintignant reste quand même dans son espèce de petite agence immobilière presque tout le film.
Dans sa cave, où il regarde comme s'il était au cinéma, par le soupirail passer les jambes des femmes.
Donc là, on a l'homme qui aimait les femmes, mais on a aussi le dernier métro, c'est exactement le même schéma que le dernier métro, hein, la femme qui agit, l'homme qui est caché, qui donne les directives, mais qui ne peut pas agir lui-même. Il y a cette paralysie du masculin qui est quand même forte dans les derniers films. C'est une chose que je trouve merveilleuse dans Le Vivement Dimanche, c'est la première scène qui contredit tout le film. La première scène où elle marche au soleil dans une ville animée en plein jour, alors que les trois quarts du film vont être dans la nuit, dans une cave, sous la pluie.
On repense à Bernadette Lafont faisant du vélo avec la jupe virevoltante au début des Mystons.
Exactement, ces travelling le long avec la bicyclette de Bernadette Lafont dans les Mystons.
Et puis c'est un film, vous parliez de Nestor Almendros, encore superbe photographie en noir et blanc. Et alors on apprend, moi je ne le savais pas, je l'ai appris en lisant votre livre, que Truffaut avait eu le plus grand mal à imposer cette idée du noir et blanc. Mmh. Mais c'était pour lui un acte esthétique fort, non seulement parce que ça citait les films noirs auxquels il faisait référence, mais c'est un film qui a été fait contre la télévision, contre les couleurs de la télévision, et même contre les chants contre chants qui devenaient le béaba du langage télévisuel.
Oui, là, au lieu de faire des chants contre chants, il fait des mouvements de caméra. Où il fait avec des gros plans de certains acteurs. Il voulait, c'est contre la télévision, contre toute la pollution visuelle qui nous entoure de partout, même à cette époque-là. Et il prend le contre-pied de tout ce qui fait notre univers quotidien. Il veut dépayser. Et c'est ça, les films de Truffaut, il veut que le spectateur sorte du cinéma en ne sachant plus où il est, où il soit complètement... je parle de l'hypnose, du phénomène hypnotique dans les films de Truffaut, et j'ai trouvé j'ai beaucoup été aidée dans ce travail par le grand livre de Raymond Bellour, Le corps du cinéma, qui étudie d'une façon extrêmement profonde et savante tout ce phénomène au cinéma, mais qui joue constamment, et surtout dans les derniers films. C'est exactement ça que veut provoquer Truffaut pour le spectateur, cette prise de possession. Il prend possession de la perception, crée un mode perceptif totalement différent du quotidien.
Charles Garçon.
Oui, ce qui est étonnant, c'est que vous parliez du noir et blanc commercialement scandaleux à l'époque, et en fait, quelqu'un comme Léo Scarrax, que vous avez déjà cité pour les séquences où il filme des gens qui courent, Léo Scarrax, par exemple, se réfère plutôt à Godard ouvertement, c'est-à-dire que les contemporains n'osent pas trop citer Truffaut. Or, justement, Léo Scarrax va faire Boy Meets Girl en noir et blanc. On pourrait penser qu'il y a une filiation là secrète, donc que même le cinéma contemporain, ou en tout cas le cinéma de cinéastes qui commencent dans les années 80 doivent beaucoup plus à Truffaut que ce qu'ils ne veulent bien en dire.
Oui, parce que Godard aura peu fait école finalement. Piala aura beaucoup fait école dans les années 80, mais la nouvelle génération de cinéastes français apparus dans les années 90, les Arnaud Desplechin, les Noé Milbowski, Pascal Ferrand et autres seront résolument truffaliens.
Desplechin parle d'une façon magnifique de Truffaut. Hein, il comprend parfaitement son travail. Il a été très marqué par son travail. Xavier Dolan parle de Truffaut. Hein, James Gray parle de Truffaut.
En fait, dès qu'on a du romanesque et une sorte
de
fièvre...
C'est un grand maître du cinéma d'imaginaire. Le cinéma, la fiction, vraiment, la pure fiction, il n'y a pas tant d'auteurs de pure fiction au cinéma. Quelqu'un qui refuse d'être pédagogique, d'être informatique, de faire une leçon. Les idées, voilà. Il refusait les idées, Truffaut. Il voulait entièrement travailler sur l'imaginaire du spectateur. Et évidemment avec le sien et son expérience à lui.
Quand il va où nous irons,
Merci Angela, on clôt cette séquence Truffaut de l'encyclopédie vivante du cinéma par les toutes dernières images signées Truffaut, le générique de fin de Vivement Dimanche et ses pieds d'enfant rieur jouant avec le pare-soleil d'un appareil photo sur la musique de Georges Delerue. Votre livre Tout Truffaut, 23 films pour comprendre l'homme et le cinéaste vient de sortir chez Armand Collin. Le Truffaut, critique de cinéma, l'homme le plus haï de Paris, le critique terroriste, le fossoyeur du cinéma français comme l'appelaient ses détracteurs dans les années 50. Et il ressurgit grâce à la publication chez Gallimard de ses chroniques d'art spectacle 1954-1958. On ne connaît pas le Truffaut critique si on ne connaît pas le côté polémique, vengeur, mordant de ses articles dans Art. Espérons que l'ensemble de ses articles sera un jour publié, écrivait Éric Rohmer en 1985, peu après la mort de Truffaut. C'est chose faite donc maintenant grâce à Bernard Bastide qui les a réunis et les présente. Il faudra attendre tout de même le 28 mars pour vous les procurer chez Gallimard. Donc, en attendant, vous pourrez parcourir le beau livre de Philippe Lombard, Le Paris de François Truffaut, qui est paru chez Paris-Gramme, et puis pour en savoir plus sur Maurice Jaubert, le compositeur des musiques de La Talente, Quai des Brumes et Le Jour se lève, mais aussi, donc à titre posthume, de 4 films de François Truffaut, vous procurerez le livre que vient de lui consacrer chez Bleu Nuit éditeur François Porcil, qui était lui-même conseiller musical de François Truffaut sur les 4 films en question. Et puis enfin, demain à 15h sur France Culture, vous pourrez écouter Vincent Amiel évoquer la figure d'Antoine Doinel dans l'émission de Charles Dantzig, Personnage en personne. Claude Miller avait été l'assistant de François Truffaut. Son film La meilleure façon de marcher est ressorti en salle mercredi dernier. Et puis, François Truffaut n'a pas connu le DVD, mais il n'y a aucun doute que ça l'aurait passionné s'il l'avait connu, parce qu'il disait déjà, hein, comme cinéphile, que la vidéo avait bouleversé sa vie. Et s'il était encore des nôtres, il se jetterait certainement sur L'Homme du Sud, film hollywoodien de Jean Renoir que sort Lobster Film en DVD. Donc, et puis, peut-être même, lui qui avait eu des mots à rien rapide et définitif sur l'inexistence du cinéma anglais, il se jetterait peut-être tout de même sur ces deux British comedies qu'édite Tamasa, Chaussures à son pied de David Lean et The Goose Steps Out de Basil Darden et Julian Mitchell. Et aucun doute qu'il serait convaincu qu'il changerait d'avis puisque les livrets qui les accompagnent, ces DVD, sont signés Charlotte Garçon. Mais il n'y a aucun doute pour le coup qu'il se serait précipité pour aller voir en salle un film ressorti mercredi dernier dans une copie restaurée absolument magnifique. D'ailleurs, il en parlait déjà à l'époque avec son auteur.
Et le film a beaucoup perdu.
Did the pitch lose a lot of money?
Yes, it lost a lot of money.
Oui, ça a perdu beaucoup d'argent.
Ça vient peut-être de l'Australie.
It's perhaps because of Australia.
Et de l'époque.
And the period.
Il est finalement assez morbide.
Because finally it's rather morbid.
Même les couleurs sont
even
un
the
peu
colors are somewhat
comme le vin.
Like the wine.
C'est un peu cauchemardesque.
It's a little bit nightmarish.
Pale.
Pâle.
Comme un cauchemar.
Like a nightmare.
Ça m'ennuierait d'abandonner Under Capricorn.
Well, it would bother me to leave Under Capricorn.
Sans mentionner les
without mentioning the
les points forts.
The strong points.
Yeah.
Je crois par exemple le personnage de Millie.
I think, for instance, the personage, the character of Millie
est vraiment très beau.
It's really very beautiful.
I thought, but the English critics said it was terrible to take a lovely actress like Margaret Leighton and make her into a unsympathetic character.
Un caractère qui était antipathique.
Ah non, c'est très bien. Et ses rapports avec Cotten, son amour.
And her relationship, her love for Cotten, were very good.
C'est la même idée que Madame Danvers.
It's the same idea as Madame Danvers. Yes.
Mais très, très améliorée.
But very much improved.
Et toute l'évolution des caractères dans le film est
and
très,
all
très
the evolution,
belle.
All the development of the characterizations in the pictures is very beautiful.
Un extrait des entretiens Hitchcock-Truffaut, la base traduite par Helen Scott, hein, heureusement qu'il y avait Helen Scott parce que ni l'un ni l'autre ne se comprenaient sinon, et qui ont donné le livre, le Hitchbook, les entretiens Hitchcock-Truffaut, bible de tous les cinéphiles. Ce film australien est morbide que Hitchcock n'aimait pas parce qu'il avait perdu beaucoup d'argent à cause de lui, ce qui avait douché ses espoirs d'indépendance vis-à-vis des studios hollywoodiens, puisque ça avait coulé la Transatlantic Pictures, la société de production qu'il avait créée pour échapper aux joutes terribles clip de David O. Selznick. On avait raconté tout ça dans un plan large il y a un an et quelques. Ce film, c'est bien sûr Les Amants du Capricorne, Under Capricorne, en 1949. C'est le film des dernières fois, le dernier film en costume d'Hitchcock, le dernier film avec Hitchcock pour Ingrid Bergman, avant qu'elle n'aille rejoindre Rossellini en Italie. Ce que raconte aussi un livre destiné au jeune public, paru récemment, Ingrid Bergman, l'aventurière du cinéma, de Gabriel Sébir et Margot Hackel. Il faut dire, Charlotte Garçon, qu'un des bonheurs évidents qu'on a à revoir Les Amants du Capricorne et ses plans séquences très très impressionnants, tout en mouvement de caméra qui passe par les rambardes, qui rentrent dans les chambres, qui en ressortent, c'est surtout le jeu d'Ingrid Bergman et puis tout particulièrement le spectacle absolu qu'est son visage.
Et oui, et pourtant, elle n'y apparaît qu'à la 24e minute et encore par les pieds. Je vais y revenir. Je pense effectivement qu'il faut vraiment aller, si on peut, voir en salle ce film qui fait, comme vous le disiez, sans doute partie de cette catégorie des grands films malades forgés par le docteur Truffaut. Malade dans le sens où aucun des trois acteurs ne sait vraiment prendre l'accent irlandais qui correspondrait à son personnage. Ni l'américain Joseph Cotten, ni l'anglais Michael Wilding, ni la suédoise Ingrid Bergman. Malade surtout parce que ce n'est pas un film à suspense, en un sens. C'est donc l'histoire d'un aristocrate irlandais jeune et sans le sou, Charles Adair, qui débarque à Sydney au milieu du 19e siècle pour y faire fortune et pour y fréquenter la bonne société coloniale irlandaise. Bonne société, croit-il, puisqu'on lui apprend vite que cette colonie, elle est peuplée d'anciens bagnards et que donc, il n'y a qu'une seule chose à ne pas faire, un seul principe, il ne faut jamais questionner personne sur son passé. Or, Charles va justement inviter sans le vouloir, le passé à la table de son nouvel ami, Sam Flusky, Joseph Cotten, puisqu'il va découvrir que son épouse, il l'a connue enfant, quand il était en Irlande. Mais cette Lady Henrietta, Ingrid Bergman, donc il la découvre pour le moins changée, non plus affable, mondaine, mais complètement diminuée, rongée par une sorte de secret. Elle qui, 7 ans auparavant, a fait scandale en épousant Sam, le garçon d'écurie de sa famille, l'a suivi jusqu'au bagne où avait réussi à l'envoyer ses parents et à endurer des visites au bagne en traînant comme ça aux portes du bagne avec les va-nu-pieds. Et donc justement, c'est comme ça, c'est par les pieds qu'Hitchcock choisit de cadrer pour la première fois dans le film Ingrid Bergman. Elle arrive pieds nus, elle descend à un dîner de notables entièrement masculin organisé par son mari. Et là, la caméra va remonter d'abord sur ses mains qui agrippent les épaules de Sam, puis sur son visage émacié. Et elle est exactement comme l'Alicia Désenchaînée, son film précédent avec Hitchcock. Elle est non seulement hagarde, évidée, mais aussi complètement ivre.
What is the matter with these people? They began cackling like parakeets and then they suddenly fell silent.
They're an ignorant lot. I'll take care of them.
No, no. After this, I want you to consult me about everything. Everything. I have left too much on your shoulders. I shall come here every morning. No, no. I want you to come to my room every morning to get your instructions for the day. Now, I would like to see the linen cupboard. You have the key?
So that's the way of it, is it?
Yes. Will you kindly give me your keys?
Donc là, on entendait Lady Henrietta essayer de reprendre la main sur sa gouvernante et les rires de sorcières des employés, de ses employés qui sont en fait des bagnardes. Ces bouteilles qu'on entend, ces bouteilles de la maîtresse de maison qu'elle cache dans son placard, qu'elle vide tous les soirs dans sa chambre et qui sont ici exhibées par sa gouvernante plus sournoise, on l'entendait, que Mrs. Danvers dans Rebecca, eh bien ce sont l'un des accessoires marquants du film, l'un des détails saillants qu'Hitchcock utilise justement pour rompre la continuité entêtante de ces longs plans séquences qu'on n'appelait pas encore à l'époque plans séquences, mais qui structurent effectivement le film et qui, comme Charles, suivent les personnages, ne les lâchent pas jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre vérité, ce qui pour Henrietta aboutit à un extraordinaire monologue. Alors oui, il y a des longues prises comme dans La Corde, mais elles ne sont pas du tout de l'ordre du formalisme un petit peu virtuose et expérimental, puisque en fait, c'est vrai que les acteurs sont mis à rude rue des preuves et c'est un cauchemar. Il faut qu'ils emportent chacun leur morceau de table quand la caméra Technicolor de Jack Cardiff
énorme
arrive.
Caméra, ouais.
Voilà, il faut que chacun se lance en arrière sur des matelas parce que les décors sont escamotables à un point qui n'a jamais été fait avant. Donc on comprend qu'il y a quelque chose de terrible pour la concentration des acteurs, mais ça n'est absolument pas gratuit puisque ça relève de ce mouvement, justement ce mouvement vital qui va dans le film des pieds vers la bouche, ou bien si on veut du corps qui se remplit d'alcool à l'âme qui va se redéployer en se racontant ou en accédant en tout cas aussi à l'image de soi, dans des scènes cette fois pas du tout dialoguées. Et là on reparle de Truffaut parce que Hitchcock avait ce secret perdu de l'ère du muet, c'est-à-dire la capacité de faire des scènes entièrement dénuées de dialogue et où on comprend quelque chose simplement visuellement. Et il y en a notamment une dans Les Amants du Capricorne. C'est simplement Charles qui, lorsque Lady Henrietta lui dit « Je n'ai plus de miroir chez moi parce que je ne pouvais pas supporter de voir ma déchéance », ils sont devant une porte-fenêtre et il met sa redingote à doublure sombre derrière le carreau. Et tout simplement, elle arrive à se voir. Il lui offre un miroir qui lui permet de voir qu'elle est encore extrêmement belle. Donc c'est très beau ce mouvement mélodramatique finalement d'une femme qui accède à nouveau à elle-même, qui se réincarne, comme dit Charles lui-même. Et effectivement, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est exactement pendant le tournage de ce film que Ingrid Bergman va décider d'attaquer Rossellini, c'est-à-dire de lui écrire et puis vraiment pendant le tournage de tomber amoureuse de lui, parce que on oppose souvent le travail que Rossellini lui a fait faire en Europe en la transplantant de son milieu hollywoodien vers la rudesse des paysages et de la fiction documentaire de ce cinéma moderniste. En réalité, c'est exactement ce qui arrive déjà à son personnage d'Henrietta. C'est-à-dire qu'il me semble que l'épreuve qu'a subie Ingrid Bergman sur le tournage des Amants du Capricorne la prépare à ce changement radical et à cet accès à soi-même qu'est le parcours d'actrice d'Ingrid Bergman. Et effectivement, le petit livre de Gabrielle Sébir avec des dessins et des collages de Margot Hackel, l'aventurière du cinéma, Ingrid Bergman, l'aventurière du cinéma, retrace aussi ce parcours. Alors c'est très féministe, ça donne cette idée, mais en tout cas c'est très beau de voir que Ingrid Bergman, qui juste après va être traînée dans la boue par la presse, justement parce qu'elle a tout quitté pour Rossellini, va être rattrapée au vol par qui ? Par Jean Renoir, qui lui fait tourner Elena et les hommes dans la foule parisienne du 14 juillet Belle Époque. Portée par les rires dans une joyeuse farandole de couleurs, écrit Gabrielle Sébir, elle rencontre les hommes dont elle va changer le destin, et avec ce film, elle reprend le sien en main et sourit à nouveau.
Merci Charlotte Garçon. Les Amants du Capricorne est donc actuellement en salle dans une très belle copie numérique et restaurée. En attendant sa parution en Blu-ray pour la première fois, ce sera le 2 avril chez l'Atelier d'Images, avec notamment une présentation du film par François Truffaut. C'était dans le ciné-club du regretté Claude Jean-Philippe sur Antenne 2. Quant à Ingrid Bergman, l'aventurière du cinéma de Gabrielle Sébir et Margot Hackel, c'est aux éditions à Dodane. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui, et la prise de son Jean-Guy Lamège. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Doria Zénine. La semaine prochaine, nous serons avec Jerzy Skolimowski, invité d'honneur du festival Toute la mémoire du monde à la Cinémathèque française, qui proposera une rétrospective intégrale de ses films parallèlement à la ressortie en salle de 4 d'entre eux avant leur édition en Blu-ray. Auparavant, nous vous donnons rendez-vous pour une séance France Culture autour du nouveau film de Laszlo Nemes, l'auteur du Fils de Saul. Sunset sera projeté en avant-première, suivi comme toujours d'un débat avec le réalisateur. Ce sera mardi prochain, 12 mars à 20h au Majestic Bastille à Paris. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.